7h30, l'heure de retrouver Elodie Largenton pour le journal. Bonjour Elodie.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Des actes, des avancées concrètes dans l'indemnisation des victimes. C'est ce que réclament les antinucléaires. Ils étaient des dizaines hier sur le site du mémorial dédié aux victimes des essais à l'occasion de la commémoration du premier tir en Polynésie française. La question de la surrémunération des fonctionnaires outre-mer de nouveau sur la table. C'est la Cour des comptes qui relance les débats. Dans ce journal, on parlera aussi des inscriptions à l'université et puis on fera le bilan des mondiaux de 20 marathons.
Alors, il y a 51 ans, le premier tir nucléaire a été effectué en Polynésie française. Un premier tir commémoré hier sur le site du mémorial dédié aux victimes des essais sur le front de mer de Papeete. Près de 350 personnes étaient présentes.
Un hommage a été rendu à John Doom et à Bruno Barrio, figure de la lutte antinucléaire disparue en début d'année. C'est important pour le président de Mororoa et Tato, Roland Oldham, qui souhaite maintenant se tourner vers l'avenir. La jeunesse doit se saisir de ce combat pour faire reconnaître les conséquences des essais, dit-il. On l'écoute.
Je pense que c'est important de rendre hommage, mais le fait de rendre hommage, c'est pas de pleurer sur le passé, c'est plutôt d'inviter, de voir avec clairvoyance l'avenir, quoi. Et puis de se dire, réagissons, hein, faisons quelque chose. Moi, j'invite grandement les jeunes à venir et que je pense que une des erreurs que l'on commet, c'est de ne pas ouvrir suffisamment les portes aux jeunes. Si les institutions sont toujours fermées, que ça soit là, partie ou là, sont toujours fermées, il faut leur donner des responsabilités.
Le président Edouard Fritsch n'était pas présent hier, mais il a envoyé une lettre aux représentants de Mororoa et Tato, de l'association 193 et de Tamari Mororoa. Dans ce courrier, le président rappelle que la notion de risque négligeable dans la loi Morin a été récemment supprimée. Une avancée obtenue par son gouvernement et ses parlementaires, souligne Edouard Fritsch. Et il ajoute que cette réforme devrait s'appliquer immédiatement en vertu d'une décision du Conseil d'État. Mais les antinucléaires sont méfiants. Ils réclament plus d'actions concrètes dans l'indemnisation des victimes. Roland Oldham.
Moi, je pense qu'il a eu trop peur de venir, hein, Edouard Fritsch, parce que c'est sûr qu'on allait dire ce qu'on avait à dire. Ça veut dire que, comme je dis, la loi Morin, on ne va pas attendre éternellement. C'est un début, mais comme je dis, nous, on veut des dates précises, hein. Et puis, on veut la prochaine réunion le plus rapidement possible. Et puis, la liste de personnes qui seraient, comment déjà, éventuellement indemnisées. C'est ça qui est le plus important.
Et avec Yolande Verlandon, comment se passent un peu les relations avec Mororoa?
Ben, nous, on n'a pas trop, on n'a rien eu de. Nous, on essaie d'être polis, mais bon, je dois dire qu'il y a une grande différence entre Bruno Barrio, il est irremplaçable, Bruno Barrio. Hein.
Edouard Fritsch n'était donc pas présent hier, mais le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Équipement, Luc Fahato, qui a pris la parole devant le public. Le ministre souhaite aller au-delà de l'opposition pour trouver des solutions.
Après ce qui a été fait ces derniers mois, je pense que c'est important que les associations sachent que le gouvernement n'est pas resté inactif.
On sent qu'il y a quand même un petit peu un ressentiment contre le gouvernement. Hein,
bien sûr, ça c'est. J'allais dire que c'est naturel, mais c'est prévisible. Hein. Ce sont des mouvements qui sont fortement opposés au gouvernement. Mais nous, on veut aller au-delà de cette opposition. Nous sommes maintenant sur la voie de la recherche de solutions, notamment au niveau de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Et on évoquait tout à l'heure Yolande Verdondon, la nouvelle déléguée du COSCEN, le comité de suivi des conséquences des essais nucléaires. Elle était elle aussi présente hier lors de cette commémoration. Elle répond aux associations qui lui reprochent une absence de dialogue.
Non, je ne pense pas qu'il y ait une inimitié, mais il y a peut-être une incompréhension parce que je ne suis pas une militante et je n'exerce pas un mandat et j'exerce une fonction. Exerçant une fonction, je n'ai pas à m'exprimer publiquement sur mes choix, mes ressentis. En revanche, je dois préparer tout l'accès à l'information, tout ce qui est recherche, documentation, etc. C'est vrai que je vois un petit peu moins. Je n'ai pas fait la démarche d'aller, par exemple, de convoquer une réunion avec les associations. Là, je suis restée plus en retrait. Mais en revanche, pour des rencontres, des discussions, des échanges, la porte de la délégation est toujours ouverte. Les gens viennent quand ils veulent. Ils sont toujours reçus. Il n'y a pas de problème.
Des propos recueillis par Antoine Samoyot.
Un homme de 53 ans a été tué par un conducteur à Tuahutu ce week-end.
La victime était en train de faire un jogging le long de la route samedi en début d'après-midi quand elle a été percutée par une voiture. La conductrice qui roulait en direction de Tuahutu s'était endormie au volant de sa voiture. Le jogger âgé de 53 ans a été évacué à l'hôpital de Taravao où il est décédé des suites de ses blessures.
Et puis les honneurs militaires et civils pour Albéric Rivetta, le jeune militaire polynésien décédé au Mali.
Le corps du chasseur parachutiste Albéric Rivetta a été rapatrié au Fénois. Et vendredi soir, les représentants de l'armée, le président Édouard Fritch et son gouvernement, ainsi que le haut commissaire René Bidal, ont participé à la cérémonie rendue en hommage au jeune militaire. Cérémonie qui a eu lieu sur la base aérienne de Faa 1.
Et on poursuit avec la réforme de la surrémunération des fonctionnaires outre-mer qui revient sur le tapis.
Ouais, dans son dernier rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques publié jeudi dernier, la Cour des comptes revient sur la surrémunération des fonctionnaires ultramarins. Une réforme permettrait à l'État d'économiser jusqu'à 101 milliards de francs par an. Les précisions d'Antoine Samoyot.
Véritable serpent de mer, la réforme de la surrémunération des fonctionnaires outre-mer a été remise au goût du jour la semaine dernière. La Cour des comptes a en fait rappelé ses préconisations de 2015 concernant les majorations de traitement et diverses indemnités destinées à compenser le surcoût de la vie ou encore à garantir l'attractivité des postes en outre-mer. Un système jugé aujourd'hui juridiquement inextricable et surtout très loin des réalités du coût de la vie en outre-mer. La Cour chiffre le coût de ces surrémunérations à 167 milliards de francs par an, dont 143 milliards uniquement pour les agents civils. La réforme consisterait donc en une seule majoration de traitement correspondant au surcoût réel de la vie dans les territoires, une prime unique couvrant les frais d'installation outre-mer et enfin une fusion des indemnités de sujétion et d'éloignement en les réservant uniquement aux affectations les moins attractives. Reste à savoir si le nouveau gouvernement osera s'attaquer à un sujet aussi sensible.
Et puis c'est le début des vacances scolaires, mais pas de répit. On pense déjà à la rentrée prochaine avec l'UPF qui lance aujourd'hui sa campagne d'inscription.
Près de 800 nouveaux bacheliers sont attendus sur les chaînes d'inscription en première année d'études universitaires. Ils peuvent s'inscrire dès aujourd'hui et toute la semaine à l'Université de la Polynésie française. Un portail d'inscription en ligne est disponible sur le site de l'UPF. Il faut savoir que les procédures varient selon les formations et les profils des étudiants. En tout cas, aucune inscription ne sera acceptée après la rentrée le 21 août prochain, sauf exception pour les demandes de validation d'études ou d'acquis professionnels. Et signalons encore que c'est aujourd'hui également que s'ouvrent les inscriptions à l'établissement d'enseignement supérieur du professorat des écoles.
Du VA maintenant, les premiers championnats du monde de VA marathon sont finis et Tahiti est le grand gagnant de cette compétition.
Et avec ses 13 médailles dont 10 en or, Tahiti devance largement tous ses adversaires, notamment la Nouvelle-Zélande qui termine deuxième. On fait le bilan avec Alex de VA News. Ces championnats du monde ont été l'occasion d'essuyer les plâtres sur le site de Auretinihau qui servira également pour les mondiaux 2018 de vitesse et c'est une belle réussite.
Mais au niveau de l'organisation, ça a été vraiment vraiment remarquable. Hein. On a vu une effervescence, on a vu véritablement du monde venir sur ce site de Auretinihau complètement relooké, qui sera encore relooké hein, d'ailleurs, puisque les travaux sont prévus pour aménager le site pour que l'année prochaine, pour les championnats du monde, donc 2018, les sprints cette fois-ci, eh bien le site soit complètement revu et qu'une esplanade dédiée spécialement aux activités nautiques soit mise en place.
Et seul bémol pour notre spécialiste, les carences du VA tahitien chez les femmes, où la suprématie mondiale de Hinatea Bernardino en Open ne doit pas faire oublier le déficit chez les juniors et chez les vétérans.
On a véritablement une carence chez les femmes, hein, puisque c'est dans ces catégories-là que l'on perd 3 médailles d'or, notamment avec les masters femmes, donc V6, qui ont, elles, décroché le bronze, mais surtout dans la catégorie des juniors filles, où on perd 2 médailles d'or en individuel et en V6. Donc là, il va falloir véritablement travailler là-dessus, chercher à recruter des jeunes, les amener au VA et les préparer au plus tôt pour ces championnats du monde 2018. Si Tahiti veut retrouver également sa suprématie dans cette compétition.
C'était Alex de VA News et vous pouvez retrouver le classement complet de ces premiers championnats du monde de VA marathon sur notre site internet radio1.pf.